France Culture.
Les nuits de France Culture.
Le monde de la poésie est parfois impitoyable. Une mauvaise critique, un mauvais mot de la part d'un poète célèbre ou d'une quelconque figure d'autorité peut faire vaciller la carrière d'une jeune ou d'un jeune artiste. Les poètes établis sont eux-mêmes assujettis à de tels conflits et leurs préférences esthétiques fluctuent parfois au même rythme que leurs affinités humaines. Rares sont ceux qui ont su rassembler tous les poètes autour d'eux. Un André Breton, par exemple, était aussi adulé de ses adeptes et amis qu'il était détesté par ses nombreux ennemis. Il y a pourtant une figure au XXe siècle qui fait l'unanimité, d'Éluard à Breton en passant par Reverdy. C'est Guillaume Apollinaire, qui, comme nul autre, a su réunir dans l'admiration tous les artistes et écrivains de son époque. Son succès n'est évidemment pas immédiat, et il prend un certain temps à conquérir sa renommée. C'est la publication d'Alcool en 1913, puis de Calligramme en 1918, après son retour triomphant de la guerre, qui finissent de le consacrer comme une figure mythique de la poésie du XXe siècle. Dans ce numéro de la Tribune des critiques de Pierre Barbier, Roger Grenier, Luc Estan, Stanislas Humet et Michel Descodin évoquent l'esthétique avant-gardiste d'Apollinaire, en faisant un prophète de la poésie, mais pas que. Érotisme, érudition, mélancolie, amour, amitié, la poésie de l'auteur d'Alcool semble couvrir avec une forme de magie du verbe tous les aspects de l'existence humaine. Il est celui qui raconte Icare, mais aussi l'ingénieur qui raconte l'avion, le savant qui use d'obscures références alchimiques, ou encore le poète qui se joue de traditions millénaires. Qui d'autre, au début du XXe siècle, aurait pu écrire ces vers ? L'avion, l'avion, qu'il monte dans les airs, qu'il plane sur les monts, qu'il traverse les mers, qu'il aille regarder le soleil comme Icare, et que plus loin encore un avion s'égare, et trace dans les terres un éternel sillon. Mais garde en lui le nom suave d'avion, car du magique mot les cinq lettres habiles eurent cette vertu d'ouvrir les ciels mobiles. Une discussion de haute volée autour d'un poète virtuose et protéiforme donc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 2 février 1966.
La Tribune des critiques, magazine littéraire, artistique et dramatique. Avec Roger Grenier, Luc Estan, Stanislas Fumet et Michel Descodin, Pierre Barbier présente La Tribune des critiques. Aujourd'hui, à propos de la publication des œuvres complètes de Guillaume Apollinaire. Réalisation, Pierre Barbier.
Le Cercle français du livre vient de publier pour la première fois l'œuvre complète de Guillaume Apollinaire, œuvre complète et non intégrale. Michel Descodin, vous êtes le publicateur, et je voudrais vous demander tout d'abord, quelle est votre part dans une édition de cet ordre ?
Eh bien, il peut être étonnant de constater que les œuvres complètes d'Apollinaire n'avaient jamais été réunies, alors que celles de François Mauriac, d'autres écrivains qui sont encore en vie, celles de Colette, d'autre part, celles de Cocteau, ont déjà paru. Il y a à cela diverses raisons. La principale me semble être qu'Apollinaire est d'abord, pour les lecteurs, pour le grand public, le poète d'alcool. Or, dans cette édition, qui comportera, quand elle sera achevée, 4 volumes, d'environ 800 pages chacun, Alcool et d'une façon générale la poésie occupera à peine la moitié d'un volume. C'est dire que l'œuvre d'Apollinaire est considérable, hors la poésie. Elle est considérable, elle est également très variée, puisqu'elle comporte non seulement des contes, ou si vous voulez, des romans, mais également un très grand nombre d'articles, de critiques, de chroniques, enfin de l'activité journalistique d'Apollinaire. Et le second volume est à peu près entièrement composé de ce genre de littérature, et qui me semble ne pas être une littérature négligeable. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Ainsi, les œuvres complètes d'Apollinaire que nous avons essayé de composer sont réunies en quatre volumes. Le premier volume comporte l'œuvre d'imagination en prose, et en particulier cet enchanteur pourrissant aujourd'hui absolument introuvable, de même que des contes que j'ai été chercher dans les journaux de 1910 ou de la guerre. Vous savez, les séries des Mille et un matins, ça florissait à l'époque. Le second volume, lui, est composé, je viens de le dire, de chroniques. Le troisième, des œuvres poétiques, des œuvres dramatiques et d'une partie de la correspondance. Enfin, le quatrième, de toute la critique d'art, qui, vous le savez, est extrêmement importante, et de la fin de la correspondance.
Nous avons la chance d'avoir avec nous Stanislas Fumé, qui lui a eu une autre chance, c'est-à-dire de connaître des gens comme Apollinaire alors qu'il était un petit adolescent, je crois vers l'âge de 15 ans. Vous avez connu Apollinaire, Stanislas Fumé, et par conséquent, votre connaissance n'est pas celle d'un critique ou d'un homme de lettres qui a approché un maître, mais celle d'un jeune homme qui découvrait la vie à travers des gens comme Apollinaire. Qu'est-ce qu'était Apollinaire pour un jeune homme de 15 ans ?
Il était fort peu connu à l'époque, mais j'étais lycéen. Je voulais fonder une revue qui s'appellerait La Forge, et où nous cherchions un comité de rédaction parmi les gens qui nous paraissaient les plus intéressants de l'époque. C'est ainsi que j'avais écrit à Maeterlinck, qui m'avait répondu d'Amérique, qui ne pouvait rien publier parce qu'il était vendu encore pour 15 ans aux Américains. J'avais écrit à Claudel, qui m'a répondu de Copenhague, je crois, qu'il voulait d'abord voir la revue avant de s'engager. Il n'avait pas tort. Plusieurs autres comme cela. Et alors, parmi les plus jeunes, nous avions pensé à Apollinaire. Et c'est Louis de Gonzague Frick qui nous a recommandé mon ami le poète René Descembre, qui est mort chartreux beaucoup plus tard, n'est-ce pas, et qui à l'époque était très connu au Quartier Latin, mais qui était un personnage, je ne sais pas, tout à fait cocasse et très très original. Et nous avons donc été voir Apollinaire, moi j'avais à peine 15 ans, rue de Passy, et je le vois encore, il était en train de se raser. Et il y avait à côté de lui, sur un fauteuil, un monsieur avec un monocle, et Apollinaire nous présente Monsieur Max Jacob. J'ai donc connu le même jour Apollinaire et Max Jacob. Puis nous avons parlé littérature, ce qui m'intéressait follement à l'époque. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de Claudel, et alors il a eu cette réponse. « Oh, vous savez, Claudel et Suarez, pour nous, ce sont des précieux. » Or, lui-même avait un langage très précieux. J'étais pas tout à fait d'accord. Mais on a parlé de beaucoup de choses, et Apollinaire était très séduisant. Il semblait qu'il avait un peu plus que son âge, l'aspect. Il était déjà un peu fort. Ce qu'il disait était un peu paradoxal, n'est-ce pas ? Max Jacob renforçait, et puis au contraire, ensuite, revenait sur ce qu'il avait dit, pour ne pas être trop méchant. Enfin, on s'est beaucoup amusé. J'ai revu Apollinaire de temps en temps, et surtout dans les expositions, puisqu'à l'époque aussi, je m'occupais de peinture et de sculpture. Nous n'avions pas tout à fait les mêmes goûts, mais un jour Apollinaire a été suffoqué lorsque je lui ai dit qu'un des peintres que je préférais, c'était le douanier Rousseau. Alors là, vraiment, il a été très étonné, parce qu'il ne pensait pas que les autres fussent comme lui, n'est-ce pas, des admirateurs du douanier Rousseau. Surtout, nous n'avions pas le même point de vue. Que vous dire de lui, sinon le portrait physique, il avait une bouche, une sorte de rond, il parlait ainsi, du bout des lèvres. Il s'écoutait un peu parler, mais pour rire. Mmh. Le contraire d'un Dubos, qui s'écoutait parler parce qu'il était très sérieux. Apollinaire n'était jamais sérieux. Mais alors, chez lui, comme chez Max Jacob, le sérieux était une forme d'art. Comme j'étais tout de même beaucoup plus jeune que lui, je n'ai pas pu approfondir ce qu'était, si vous voulez, je ne sais pas, moi, sa vie intérieure, comme on le fait à un certain âge, où on questionne les gens sur les choses qui les caractérisent. Mais je venais de lire, lorsque je l'ai connu, L'Hérésiarque et compagnie. C'est à l'époque où le livre venait de paraître chez Stock, je crois. Alors j'avais été enthousiasmé par ce livre. Quand je le regarde aujourd'hui, je me demande pourquoi. Et alors je vois que si, ce qui nous séduisait tellement chez Apollinaire, c'était l'audace de l'expression. On n'avait pas cela encore, ou alors il fallait remonter au XVIIIe siècle, que je connaissais mal, comme les jeunes qui ne connaissent pas le XVIIIe siècle. Et quand maintenant je reprends les contes de Diderot, ou bien Marivaux, n'est-ce pas, je trouve quelque chose, ou Gil Blas par exemple, je trouve quelque chose de très proche du style d'Apollinaire dans ses contes. Il est évident qu'il était plein du XVIIIe siècle français. Mais alors il y ajoutait tout le côté de la littérature allemande, n'est-ce pas, qu'il connaissait bien. Il y ajoutait des souvenirs de voyage, la Belgique, etc., qui donnaient énormément de pittoresque à tout ce qu'il écrivait. Et alors, plus tard, j'ai retrouvé cela avec plus d'art encore que dans l'Hérésiarque, dans le poète assassiné. Alors là où vraiment c'est un poète qui s'exprime, c'est-à-dire qui s'incarne lui-même dans des visions plastiques. Dans des visions plastiques tout à fait prises dans la nature, pas du tout abstraites. Et c'est ce qui était charmant chez lui, c'était le sens du concret. Et on peut dire que la poésie d'Apollinaire a surtout valu par ce caractère concret qui est à la fois peint, taillé, sculpté, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qu'on touche. Et là, alors il est très proche de ses amis, les cubistes, n'est-ce pas ? Picasso, Braque et les autres, et Jules Grise, qui ont voulu véritablement peindre des choses que l'on touchait. Il leur ôtait leurs contours normaux, n'est-ce pas ? Mais ils voulaient rendre encore plus réel, c'était ça leur but. Ils étaient anti-idéalistes. Alors je crois qu'aussi Apollinaire, il n'y a plus aucun idéalisme chez lui. Et s'il a une certaine influence de Verlaine et surtout de La Forgue, il abandonne tout à fait leur idéalisme.
Vous êtes d'accord, Michel
Descoudins ? Ah, moi je suis tout à fait d'accord, et même je suis très heureux que Stanislas Fumet, en présentant l'œuvre d'Apollinaire, ait commencé par parler d'Apollinaire conteur. Vous savez que lui-même, au moins deux fois, je crois, dans sa vie, a dit qu'il était plus conteur que poète, ce qui peut nous étonner. Et je crois comprendre cela par le fait que, pour lui, le conte était justement cette saisie du réel, l'expression la plus directe de cet étonnement devant les choses, devant les gens, ce goût du pittoresque que vous avez si bien défini. Et la poésie venait comme un prolongement du conte, non pas comme autre chose, non pas comme un genre à côté, mais comme la fleur qui pousse sur la tige.
Lucastin.
Je ne doute pas, a priori, moi qui connais très peu l'œuvre en prose d'Apollinaire, je veux bien qu'a priori, venant d'Apollinaire, ça a un intérêt, plus qu'un intérêt. Mais je ne vous cacherai pas que pour ce qui est, enfin, d'une valeur dans l'absolu, je suis très sceptique par rapport à la poésie, par rapport à Alcool et Calligrappe, qui sont alors pour moi incontestablement des grandes œuvres. Et par grandes œuvres, je pense surtout à ce qu'on appelle les œuvres sources. Dans l'entre-deux-guerres, il arrivait fréquemment en critique, au temps où on parlait encore de poésie dans la critique, qu'on distingua entre les poètes, disons, rochers et les poètes sources. Les poètes rochers, c'était ceux qui, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur valeur, étaient en quelque sorte clos en eux-mêmes et ne pouvaient pas avoir d'imitateurs, ou c'était justement de pâles imitateurs. Et il y avait les poètes sources qui étaient ceux-là de qui partaient des poètes ayant leur propre originalité et ont besoin dans des voies très différentes. Et par exemple, pour Apollinaire, moi, au moment où je suis né à la littérature, j'étais très frappé que deux écoles poétiques qui, à première vue, étaient absolument opposées l'une à l'autre, j'entends les surréalistes et les fantaisistes, ces deux écoles se réclamaient du même Apollinaire. Et on pouvait voir Éluard et Francis Carco porter Apollinaire au pinacle. Et on pouvait lire dans Éluard, et surtout dans Aragon, comme dans Carco, une espèce de musique qui peut-être n'aurait pas existé, tout en étant très originale, très personnelle, sans Apollinaire. Alors, c'est ça, n'est-ce pas ? Si on arrive à me persuader que l'œuvre en prose d'Apollinaire est aussi accomplie, est aussi riche, est aussi absolue que les poèmes, je ne demande qu'à voir. Mais ce que j'en ai lu jusqu'à présent ne m'a pas convaincu.
Et vous, Roger Grenier ?
Ah non, alors moi je suis passionné par ce côté de la personnalité d'Apollinaire qui est celle de l'érudit un peu en marge des courants traditionnels de la recherche, c'est-à-dire de l'érudit qui va explorer l'enfer de la Bibliothèque nationale. Et alors, il y a cette énorme érudition et ce courant qui a toujours existé, je pense. Déjà chez Baudelaire, c'est un peu comme ça, puis qui s'est continué après Apollinaire avec ses complices Fleuret-Perceau et qui continue toujours. On pourrait citer des noms de contemporains, mais ce n'est pas la peine. Et je crois qu'il y avait du jeu. Il y avait le besoin de gagner de l'argent aussi, de façon pas trop difficile, qui est incontestable et qui est un des moteurs de cela. Mais il y a aussi un goût profond et finalement une chose qui est intéressante.
Oui, vous rejoignez d'ailleurs ici Stanislas Fumet qui parlait tout à l'heure du XVIIIe siècle. C'est pas, ce qu'il admire dans le XVIIIe siècle, c'est beaucoup plus Nercia que Sade, par exemple. Et parlant de Nercia, il le rapproche de l'Arétin et il a un couplet admirable sur le plaisir que devait avoir l'Arétin à écouter les courtisanes parler dans leur langage populaire et très imagé. On sent que pour lui, ces petits auteurs du XVIIIe siècle, ces auteurs du second rayon, c'est encore la vie, n'est-ce pas, la vie dans tout son pittoresque.
Et il savait la chose. C'était ça son art. C'était pas l'érudit comme les autres, c'était pas du tout ça. Mais il allait tout de suite à ce qui devait être intéressant. Apollinaire était constamment à l'affût de ce qui vient, n'est-ce pas, ou de ce qui est venu et qu'on n'a pas remarqué. Au fond, il était cosmopolite avec cela. Par conséquent, rien ne l'arrêtait. Il était sans frontières, Apollinaire.
Lucestin.
À propos de ce que vient de dire Stanislas Fumet, ce goût de la curiosité à découverte, s'il pouvait me renseigner. Parce que là-dessus, même venant de la part de certains de ses amis, pour cette étonnante vertu qu'il a eue de découvreur de l'art moderne. Est-ce que vraiment ça a été l'intuition géniale, comme ça, la perception géniale que Picasso, Braque, c'était vraiment les grands peintres, ou est-ce que ça s'est fait par un certain empirisme, disons amoureux, les amis des amis, à travers Marie, Marie étant là et Marie étant liée avec celui-ci ou celui-là, mon Dieu, on porte tout le monde, une espèce de pari à travers l'amour sur une postérité, mais est-ce qu'il y sera allé de lui-même,
ils l'ont fait ensemble, mais ce qu'avait Apollinaire, c'était le goût de l'aventure, comme personne ne l'a jamais eu, peut-être Sandras, mais Sandras n'avait tout de même pas la qualité d'Apollinaire, il a beau avoir eu de l'influence sur lui, c'est tout de même pas de la même classe. Et alors Apollinaire aimait l'aventure. Douanier Rousseau, c'est une aventure. Lorsque il poussait Picasso et Braque dans leur dernier tranchement, ça l'amusait, n'est-ce pas? En réalité, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il l'ait compris tout à fait au début.
Ah non, c'est ça qui m'a dit. Parce que écoutez, je vais vous donner mes sources. J'ai beaucoup parlé de ça avec quelqu'un que vous connaissez, qui est André Salmon. Salmon qui maintenant, peut-être le fait de l'âge, a une espèce de grand recul, une espèce de grand scepticisme à travers tout ça. Et justement, quand il s'agit d'art moderne, on voit seulement, très en retrait, quoi, ne se passionnant plus. Et donc, moi, revenant sur le passé, vous qui avez été l'aventure cubiste, etc. Et justement, il a l'air de ramener un peu ça. Je durcis, bien entendu, je durcis ces expressions. Mais même de la part d'Apollinaire, sinon surtout de la part d'Apollinaire, a ramené ça à une espèce, encore une fois, de jeu, parce que ce sont ceux-là qui se trouvaient là, à ce moment, l'aventure, comme vous dites, mais sans, comme peut-être nous sommes devenus trop graves, comme on l'exigerait des critiques d'art d'aujourd'hui qui sont des découvreurs, alors qu'ils vraiment se font les théoriciens, et s'ils vous disent que Monsieur X a du génie, ils sauront vous dire pourquoi.
Il y avait une grande part de gageure là-dedans. Yeah. C'était des hommes jeunes, qui avaient un don de peintre extraordinaire et de compositeur, et qui n'étaient pas des intellectuels du tout. On leur a raconté que tout ça avait eu des origines mathématiques parce qu'ils avaient un ami princé qui était actuaire et qui leur a donné quelques notions de mathématiques.
Oui, c'est Salmon justement qui a raconté cela.
Oui, mais alors il faut ne pas oublier que Salmon a joué un très grand rôle. Lorsque moi je suis né à la littérature, on disait, les poètes actuellement, c'est Apollinaire, Salmon et puis Guy Charles Cros, qui était le fils de Cros, qui était très apprécié à l'époque. Mais Salmon était celui qui connaissait le mieux les peintres. Il a fait beaucoup de critiques d'art, comme Apollinaire d'ailleurs, et il est certain qu'il a été constamment leur ami. Aujourd'hui, il est un peu aigri, Salmon, parce que...
Oh, c'est pas aigri, non.
Il
est en pleine forme.
Oui, mais il est sorti du circuit.
Je voudrais faire remarquer une chose, c'est que l'amitié a certainement joué un grand rôle dans l'activité d'Apollinaire critique. Mais enfin, quand on considère aujourd'hui les peintres qu'il a exaltés et ceux dont il n'a pas parlé, on est étonné de ce que l'amitié ait eu si bon goût.
Ah, mais c'est ça, je m'empresserai de dire que ça ne change rien au résultat. Ce que je voulais qu'on mette au point, c'était la méthode, s'il y avait une méthode ou s'il n'y en avait pas.
J'irais même jusqu'à dire que Apollinaire s'est peut-être moins trompé que Baudelaire en critique d'art.
Oui, mais en même temps, on n'a pas l'impression qu'il ait eu une intelligence de son époque et des temps modernes comme l'a eu Baudelaire.
Tout à fait d'accord. Oui, ça, on a le droit de faire des hiérarchies encore.
Mais essayez quand même de définir un petit peu votre pensée à ce propos pour nos auditeurs.
Là, vous vous entraînez très loin, Pierre Barbier.
Non, mais quand même, je crois qu'il serait...
Non, je veux dire, il y a certainement plus de profondeur, plus d'arrière-plan philosophique chez Baudelaire, qui était un disciple de Joseph de Maistre, rien que pour cela déjà, et qui a parfaitement senti ce que c'était que la modernité, tandis qu'il semble que Apollinaire, tout en ayant eu l'extrême mérite d'être le premier, justement, à découvrir le douanier Rousseau, ou à parler du futurisme, ou du cubisme, ou du surréalisme, puisque le mot, on le doit à lui, ne semble pas avoir... peut-être eu clairement conscience de ce qu'allait être ce XXe siècle dans lequel il entrait.
Oui, mais qui, avant 1920, a écrit des pages aussi lucides que les siennes sur le cubisme?
Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord.
Comment vous comprenez tout de même un homme comme Apollinaire, vivant avec Picasso et des gens comme ça, qui faisaient l'art nouveau, n'est-ce pas? Voyez beaucoup plus clair, on n'apprend jamais autant que chez les peintres, surtout chez les grands peintres. Alors, pour vous répondre à cela, Baudelaire, lui, avait horreur de la gageure. Il était extrêmement sérieux.
Oui.
Il n'a jamais voulu être d'avant-garde, tandis qu'Apollinaire était essentiellement d'avant-garde. Et jusqu'à prévoir, comment dirais-je, un immense succès de la science, qui à cette époque-là semblait encore très douteux. Et il est évident qu'Apollinaire, dans son esthétique, a annoncé une sorte d'avenir de la science, c'est-à-dire qu'il tiendrait lieu d'art.
Roger Grenier.
Oui, il y a une chose pour changer de sujet que je m'étonne que nous n'ayons pas quand même dite à ce micro aujourd'hui, c'est que quels que étaient les mérites intellectuels et techniques d'Apollinaire et les progrès que sa poésie ait apporté à la poésie, si populaire de nos jours, c'est finalement parce qu'il est aussi un poète élégiaque, c'est parce qu'il est le mal-aimé, il me semble. Enfin, les gens qui lisent Apollinaire pour la première fois sont beaucoup plus sensibles justement à sa complainte
et puis, il y a...
d'amoureux. Il a mal récompensé que toutes les innovations techniques qu'il a pu apporter.
Oui, c'est un poète de l'érotisme, et ce qui aujourd'hui, évidemment, a beaucoup de poids. Il est certain qu'il est plus que les autres. D'ailleurs, c'est un jeu chez lui. Ce n'est pas du tout comme Verlaine qui s'enfonce, n'est-ce pas, dans l'érotisme le plus malsain. Si ça peut dire, pas du tout. C'est un jeu de l'esprit, mais tout de même très actif. Et il est certain qu'aujourd'hui, on est sensible à cela.
Oui, mais enfin là... Quand même, j'abonde dans le sens de Roger. Il est évident que l'audience qu'a connue, que connaît encore la poésie d'Apollinaire, c'est parce que ce qui est fait d'une grande poésie, du reste, tout en apportant un accent nouveau, un renouvellement, quelque sorte par l'intérieur, elle est dans une grande tradition. Et on voit très bien la fascination que ça a pu exercer à partir d'une certaine époque sur quelqu'un comme Aragon. On le voit très bien. Et dans la partie, et non plus simplement élégiaque, chantante, qui est la plus belle, mais ça c'est une affaire de goût, en effet, la chanson du mal-aimé, le pont Mirabeau, même dans certaines, déjà, expressions d'une poésie prosaïque. Une poésie comme ça. Les derniers volumes d'Aragon, certains sont très proches de ça. Et la charge poétique y est quand même, c'est ce qui est admirable. Alors là, je ne pense pas que la sensibilité du public dans Apollinaire aille d'abord vers l'érotisme, ou c'est, disons, l'amour, enfin, plus que l'érotisme. Même le côté, si on veut, fleur bleue peut toucher dans Apollinaire. C'est une fleur bleue éclatée. Le côté romance, le côté chanson des rues, mais la chanson des rues devenant un art, je crois que c'est ça qui est le grand Apollinaire.
Et également la simplicité du langage. Apollinaire est défini par ses musiciens, qu'il ait pu inspirer aussi bien Poulenc et Honegger que Bessières, par exemple. Donc, ça prouve que le registre de sa poésie est extrêmement vaste.
Et puis elle est à base de chansons, comme vous le laissez entendre. Elle est à base de chansons. Il y a un côté nerval aussi en lui.
Oui, oui.
Alors, il y a tout de même un point sur lequel j'aimerais que vous reveniez. Vous disiez tout à l'heure, Stanislas Fumé, qu'il avait prévu cette espèce d'éclatement de la science.
Ça a été ça, l'esprit?
Oui, c'est l'esprit. Ouais.
C'est celui qui a lancé le Corbusier, etc.
C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Bigaudin?
J'ai constaté, n'est-ce pas, que dans certains contes, justement, peu connus, qu'il a écrits notamment à la fin de sa vie, en 1917 et 18, qui ont paru dans Excelsior, par exemple, il fait exactement de la science-fiction. Il invente, par exemple, une chirurgie esthétique, c'est le titre d'un conte, où on transforme l'homme. Alors, il le fait naturellement d'une façon humoristique. On donne quatre bras à un agent de police, ce qui est beaucoup plus commode dans les carrefours, oui, n'est-ce pas, et autre chose du même genre. Mais enfin, c'est développé exactement selon la méthode de la bonne science-fiction. Il y a chez lui, et en cela, il est peut-être un homme du 19e siècle, plus qu'un homme du 20e.
C'est
il y a une confiance dans la science, n'est-ce pas? Dans l'avenir de la science, il y a quelque chose d'assez étonnant chez lui.
Je crois qu'il y voit une poésie.
Et alors, il voit une poésie. N'est-ce pas, dans l'esprit nouveau et les poètes, il dit que la science et la poésie doivent se rejoindre, n'est-ce pas? Que le poète, c'est le savant d'avant-hier. C'est pas, le poète a raconté Icare et le savant a fait l'avion. C'est pas, et ce que le poète invente aujourd'hui, c'est ce qui justifie l'avant-garde, d'ailleurs. C'est ce que les savants feront au siècle prochain. Mais et c'est pas une plaisanterie pour lui, n'est-ce pas? Je crois que c'est son sens du progrès, cela.
Mais il n'avait pas une information, enfin, par des amis, de la transformation qui se faisait dans
le domaine. Il avait une information, probablement, comme il avait une information sur tout. C'est pas, il est tout de même un des premiers en France à avoir parlé de Freud, par exemple. Il connaissait certainement très peu de choses au freudisme. Ouais. Il avait des antennes, il lisait de tout.
Il était journaliste, d'ailleurs. Oui, il lisait de tout.
Il était curieux.
Il était curieux. Mais je crois qu'on n'a pas eu d'influence sur lui. Du côté scientifique.
Non, ça, c'est ça. Influence immédiate et précise, non.
Il me semble que, tout de même, c'est une chose assez admirable, une aventure assez admirable. À l'époque, s'en rendait-on compte, en dehors d'un petit milieu?
Non, c'est après la guerre, lorsqu'il est revenu avec sa blessure. Alors là, c'est devenu une image extraordinaire, un symbole. Avant cela, nous n'étions pas très nombreux à nous intéresser à Apollinaire, il faut bien le dire. Les poètes, oui, dans les surréalistes sont venus après, oui. À cette époque-là, Aragon, ils ont leur question. Véritablement, Aragon est vraiment disciple d'Apollinaire. Et alors, ceux qui ont le plus aimé Apollinaire ne l'ont pas imité, comme par exemple Reverdy. Si, Max Jacob, tiens, de lui, alors, c'est un frère pour lui, n'est-ce pas? Il a une autre note, si vous voulez, Max Jacob, plus amère, plus douloureuse qu'Apollinaire. Mais enfin, alors, c'est très très proche. Mais quelqu'un comme Reverdy, qui avait à l'époque une immense admiration pour Apollinaire, n'est pas du tout son disciple.
Absolument, oui. Michel Descodins.
Pour répondre à la question que vous posiez, Pierre Barbier, nous avons un repère qui est très précis. Et lors de l'affaire de la Joconde, vous savez que malheureux Apollinaire a été impliqué pour recel, etc. Et on a parlé de lui dans les journaux. Or, on en parle comme d'un inconnu. On dit, il paraît qu'il fait des vers, il paraît qu'il est de ces poètes qui, etc., etc. En 1911, il est inconnu. Et de même, dans les journaux de l'époque, quand on parle d'Apollinaire, on dit l'érudit Guillaume Apollinaire. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Roger Grenier. Il passe beaucoup plus pour un érudit, pour un fouineur, que pour un poète.
Alors le milieu dans lequel il vivait est donc très restreint.
Très restreint, certainement.
Bon, maintenant, il faudrait peut-être préciser son âge.
Il avait 30 ans à ce moment-là, bien sûr.
Je crois que les réputations étaient moins hâtives que de nos jours.
Mais enfin, il avait quand même publié déjà les trois quarts d'alcool dans des revues. Luc Estang a posé tout à l'heure une question qui me semble capitale et que nous avons perdu de vue dans le feu de la conversation. Il parlait de cette prose d'Apollinaire qui ne l'avait pas convaincu. Et je crois qu'effectivement, il y a là une redécouverte à faire. Vous parliez des poètes rochers et des poètes sources. Je crois qu'Apollinaire est dans une certaine mesure un conteur source. Mais la source est cachée. C'est pas pour toutes sortes de raisons. Nous parlions de l'enchanteur pourrissant que pratiquement personne n'a lu. Ces autres contes ont mauvaise réputation, il faut bien le dire. On les lit souvent assez rapidement. Et cependant, pour moi, il n'y a pas de différence d'inspiration entre Le poète assassiné, par exemple, entre certaines pages de La femme assise et les plus beaux de ses poèmes. C'est toujours la même ferveur devant la vie, c'est toujours la même angoisse en même temps, c'est toujours la chanson du mal-aimé, si vous voulez, en même temps que l'aventure esthétique. Malheureusement, la prose a évolué beaucoup plus vite que la poésie, ou si vous voulez, la discontinuité dans l'écriture est beaucoup plus frappante en prose qu'en poésie, alors ça nous semble démodé. Mais je crois que c'est une question d'années. Je crois qu'on redécouvrira Apollinaire. Et je vous avouerai que pour ma part, l'expérience que j'ai faite en réunissant les œuvres d'Apollinaire pour cette édition, en les lisant et en les relisant, la découverte que j'ai faite, c'est l'extraordinaire unité de cet homme. Qu'il écrive sur les chiens écrasés, ou sur les ordres du Saint-Siège, ou sur la situation économique en Allemagne, d'une part, qu'il écrive Le poète assassiné, ou qu'il écrive un poème, je ne dirais pas que ça a la même qualité, qu'il s'engage de la même façon, mais enfin, il est toujours présent. Il est toujours présent avec ce qui me semble être ses qualités essentielles.
Avec Roger Grenier, Luc Estang, Stanislas Fumet, Michel Descodins, Pierre Barbier vous a présenté La Tribune des Critiques. Aujourd'hui, à propos de la publication des œuvres complètes de Guillaume Apollinaire. Réalisation, Pierre Barbier.
C'était un numéro de la Tribune des critiques de Pierre Barbier, consacré à Guillaume Apollinaire, avec Roger Grenier, Luc Estang, Stanislas Fumet et Michel Descaudins, diffusé pour la première fois le 2 février 1966.